Le premier de classe. Être celui qui avait la meilleure note. Peut-être dans une certaine discipline, c'était plus facile ou c'était plus un rêve réaliste que dans d'autres. Qui n'a pas rêvé d'être le premier dans un sport? Alors là, on a les Jeux olympiques qui arrivent bientôt, qui commencent Pyeongchang 2018 en Corée du Sud. Et des athlètes se sont entraînés toute leur vie pour compétitionner aux Jeux olympiques et espérer remporter la médaille d'or. Être le premier, être la première. Qui n'a pas rêvé à être premier dans une compétition artistique? Ou même si c'est pas dans quelque chose qui va être chiffré, être la plus jolie, la plus appréciée des garçons, des hommes, d'être le plus influent, le plus populaire, d'être le premier. Il y a en nous le désir égoïste d'être reconnu comme premier ou meilleur. Et si on sait que ça va peut-être pas ou c'est pas possible dans la vraie vie, alors on fabule, on rêve, on se fait des fantaisies où on est le premier, où on est le meilleur, où on est le héros. Cependant, être le premier, si ça nous arrive vraiment, c'est rempli de dangers. Ça peut facilement nous mener à l'orgueil. Si c'est dans les sports, par exemple, on peut s'appuyer sur ses lauriers, se relâcher et se faire dépasser par un autre. Par exemple, les athlètes olympiques disent que défendre son titre de champion du monde ou champion olympique, c'est beaucoup plus difficile que de le gagner une fois, de rester le premier, de rester le meilleur. C'est quasi impossible, mais c'est une grande, grande tâche. Ou bien être le premier peut nous mener à abuser de notre pouvoir. Et comme c'est vu tristement de ce temps-ci, avec les nombreuses accusations des conduites sexuelles qui sortent, des gens d'influence, des hommes qui ont une certaine stature, un certain pouvoir, qui en profitent et qui abusent de leur pouvoir pour faire du mal aux autres. Il y en a un seul, cependant, pour qui le fait d'être le premier n'a parfaitement pas affecté son caractère négativement. Et ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Le texte qu'on va étudier cette semaine dans Colossiens nous dit que Jésus a été fait le premier sur toute chose, ou le premier en toute chose. Et une chose qu'on sait de Jésus, et une chose, comme chrétien, et même les gens en général qui croient de Jésus et qu'il est un homme bon, qu'il est un homme moral. Et nous, comme croyants, qui nous tenons sur la parole de Dieu, voyons que Jésus était plus qu'un homme bon, il était Dieu parfait, parfaitement bon. La semaine passée, dans notre étude sur Colossiens, on a vu la prière de Paul pour les Colossiens. Souvent, Paul commence sa lettre il se présente, il dit à qui il adresse sa lettre dans les deux premiers versets. Ensuite, il offre une prière d'action de grâce au Seigneur pour les gens à qui il écrit, que ce soit une personne, que ce soit une église. Donc là, il offrait, on a vu la semaine passée, c'est une prière selon le cœur de Dieu, où Paul rendait grâce à Dieu pour pas juste les belles autos, puis les belles maisons, puis les bons emplois que les Colossiens avaient eus, mais plutôt pour leur foi, pour leur amour, pour leur persévérance, le fait que l'Évangile portait du fruit parmi eux et autour. Et Paul, ensuite, dans les versets 9 à 14, exprimait, ouvrait un peu son carnet de prières et montrait aux Colossiens pourquoi il priait pour eux. Et on a vu que c'était les meilleures choses pour lesquelles Paul priait pour eux. Pas simplement la santé ou le bien-être financier ou matériel ou relationnel, mais il priait pour qu'ils connaissent pleinement la volonté de Dieu. Il priait pour que les Colossiens ils portent du fruit à la gloire de Dieu, que leur vie plaise à Dieu en toutes choses et qu'ils soient reconnaissants aussi. Dans les versets 12 au 14, pour le gigantesque salut que Dieu avait pourvu pour eux en Jésus-Christ. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin, les versets 15 à 23 du premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, sont un des textes les plus caractéristiques de cette épître. Un des textes qui font de l'Épître aux Colossiens une épître unique. Et particulièrement, les versets 15 à 20 sont des versets d'une telle densité et d'une telle richesse théologique et poétique que plusieurs interprètes de la Bible ont l'impression qu'il s'agit de poésie, presque d'un cantique à la gloire de Jésus-Christ. C'est quoi le nom de notre série encore sur Colossiens? C'était quatre mots. Ça commence avec Christ. Christ, pas le titre d'aujourd'hui, ça ressemble là, mais on avait vu que c'était Christ suprême et suffisant. Très bien. Donc, Christ suprême et suffisant. Et un des endroits où ça, c'est particulièrement clair, c'est dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai intitulé le message « Christ, suprême créateur et rédempteur ». Alors, c'est un texte, particulièrement les versets 15 à 20, qui sont d'une telle beauté poétique que plusieurs interprètes se demandent si c'est pas un cantique que Paul, un cantique que les chrétiens chantaient déjà et que Paul a repris ici parce que c'était pertinent pour ce qu'il voulait dire aux Colossiens. Peut-être aussi que Paul a utilisé du matériel qui existait déjà, un credo, une chanson, puis a rajouté par-dessus. Et c'est très possible que Paul a composé ça aussi par lui-même, mais que c'est un texte d'une superbe beauté qui exalte Jésus-Christ. Et dans ce texte, nous y apercevons richement Jésus-Christ exalté en tant que suprême créateur et suprême rédempteur. Alors, la façon que je vais diviser le message ce matin, c'est d'abord voir Christ comme suprême créateur, ensuite, comme suprême rédempteur, et troisièmement, qu'est-ce que c'est censé changer dans ma vie, que Christ soit suprême créateur et rédempteur. Alors, c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres passages du Nouveau Testament qui ressemblent à celui-ci, des textes qui exaltent vraiment la personne de Jésus-Christ comme Dieu. Qu'on voit que ces textes-là lient ensemble le fait que Jésus n'est pas juste sauveur, mais que Jésus est élevé, qu'il était créateur et qu'il est rédempteur, et que ces deux rôles-là sont unis. C'est quelque chose qu'on voit dans le texte ce matin. Alors, je vais le lire, ensuite on va prier. Puis ensuite, on va regarder, essayer de décortiquer un peu ce magnifique texte. Je vais commencer au verset 12, parce que ça suit la pensée de Paul. Comme je vous avais dit la dernière fois, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17, je pense, c'est une seule phrase, peut-être même jusqu'au verset 20 en grec. Donc, Paul était dans une élancée poétique et... à juste titre, nos traductions pour rendre ça plus clair, mettre des points, puis on recommence des nouvelles phrases. Mais je vais commencer au verset 12 jusqu'au verset 23, dans l'Épître aux Colossiens. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Prions. Oui, Seigneur, selon ta parole, nous voulons exalter ton Fils Jésus-Christ comme suprême créateur de toutes choses et seul et suffisant rédempteur. Merci, Seigneur, pour ce suprême texte qui est un peu dense, mais je te prie que tu puisses l'imprégner dans nos cœurs, l'imprégner dans nos vies. Que Jésus-Christ apparaisse un peu plus clairement à nos yeux, tel qu'il est réellement, selon la gloire qu'il porte de toute éternité et qui a particulièrement été manifestée lorsque tu l'as ressuscité d'entre les morts. Alors, dirige-nous ce matin, Seigneur, alors qu'on médite ta parole. Ne permets pas qu'elle rentre dans une oreille et sorte par l'autre. Mais je te prie qu'elle puisse faire son travail en nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen. Comme j'avais mentionné il y a 2 semaines, les Colossiens faisaient face à différentes influences. Il y avait des influences pas chrétiennes qui étaient autour d'eux, des influences, une influence d'apprendre à connaître, une influence sur la connaissance, sur l'intelligence, sur la plénitude. Et ça, c'était un danger pour les Colossiens d'être embarqués dans ce terrain glissant-là. Il y avait aussi une influence sur les forces spirituelles, sur adorer Dieu avec les anges d'une façon un peu mystique, une recherche des visions, les principes élémentaires qui régissent le monde, qu'on recherchait un peu d'être en contact avec eux pour bien adorer Dieu. Et la façon que Paul va gérer ces choses-là au chapitre 2, c'est en commençant ici, en plaçant Jésus comme le suprême. Jésus a tout accompli. Jésus est tout puissant. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On n'a pas besoin des anges pour communiquer avec Dieu. On n'a pas besoin des saints pour communiquer avec Dieu. Il nous a donné Jésus. On n'a pas besoin d'ajouter à notre salut, de pratiquer des lois pour être en règle avec Dieu. Tout a été accompli à la croix. Et c'est ce que Paul veut montrer, que dans sa personne et dans ce que Jésus a accompli, il est suprême et suffisant. Il est suprême créateur et rédempteur. Alors tout d'abord, on va voir les versets 15 à 17 particulièrement. Christ, suprême créateur. Alors avant même de se rendre là, Paul commence en disant « Le Fils est l'image du Dieu invisible » au début du verset 15. L'image de Dieu, c'était quelque chose qui était important pour les peuples anciens. Dans le Proche-Orient ancien, la statue d'un dieu était nommée l'image de ce dieu. C'était l'extension physique de la réalité spirituelle, de sorte que lorsqu'on se prosternait devant la statue, c'était comme se prosterner devant ce dieu. De sorte que offrir des sacrifices à la statue, c'était offrir des sacrifices au dieu. Et ainsi, profaner la statue, c'était la même chose que blasphémer contre le Dieu. Et si vous vous souvenez de cette histoire presque humoristique dans 1 Samuel ou 2 Samuel, je crois, lorsque l'Arche de l'Alliance est amenée chez les Philistins, qu'elle est placée dans le temple du Dieu Dagon et l'Arche de l'Alliance de l'Éternel est placée au pied de Dagon pour montrer que le Dieu Dagon des Philistins a triomphé sur l'Éternel, le Dieu des Juifs, eh bien le lendemain matin, la statue est tombé à terre, prosterné devant l'Arche de l'Alliance. Alors les gens, « Ah non, il a dû avoir un problème, je ne sais pas, un animal qui est passé, on remet la statue. » Et le lendemain, elle est tombée, et là, elle est cassée. Alors Dieu s'est servi de la superstition de ces gens-là pour leur montrer, « Non, votre Dieu n'est pas le roi. J'ai permis que l'Arche de l'Alliance soit... » capturé, entre autres, pour montrer une leçon à mon peuple, puis aussi pour vous montrer une leçon. Donc, je fais un 2-pour-1. Mais donc, il y avait cette importance-là, cette conception-là, que l'image du Dieu, c'était une extension du Dieu lui-même. Et les pharaons, d'ailleurs, se disaient l'image des dieux d'Égypte, Horus, réincarné. Moi, je ne connais pas très bien la théologie d'Égypte antique. Mais c'est un peu dans ce sens-là que Paul utilise le terme image. Jésus est l'image dans le sens qu'il est l'expression visible de Dieu. Il est la représentation exacte et visible du Dieu invisible. Il est une projection de Dieu lui-même. Jésus, la Bible nous dit que nous avons tous été créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, au niveau moral, au niveau relationnel, avec notre capacité d'être en relation avec lui. De différentes façons, on ressemble à Dieu, mais Dieu demeure totalement différent de nous. Notre image a été corrompue. Et c'est quelque chose qui va être discuté dans la conférence Paradigme, justement. On est créé à l'image de Dieu, mais cette image-là a été corrompue en nous. Mais Jésus est venu pour renouveler l'image de Dieu en nous. Il est venu, lui, pour être l'image parfaite de Dieu. Il est venu être l'humain parfait tel que Dieu nous avait créé, tel que Dieu l'avait voulu que l'humanité soit. Et un peu plus tard, dans Colossiens, chapitre 3, verset 10, Paul va dire « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Donc, Jésus est venu pour être l'image parfaite de Dieu et pour renouveler en nous l'image de Dieu comme il l'avait prévu initialement. Donc, Jésus est l'image de Dieu dans le sens que Jésus est divin lui-même. Au verset 19, d'ailleurs, Paul dit « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, c'est-à-dire dans le Fils, en Jésus. » Il y avait des influences à Colosse, des gens qui recherchaient une forme de plénitude, la plénitude de la connaissance, de l'expérience mystique de Dieu, la plénitude du salut, quelque chose qui dépassait. Oui, Jésus, c'est la base, mais il y a plus à rajouter par-dessus. Paul va dire tout au long de Colossiens, il n'y a rien à rajouter par-dessus Jésus. Jésus est la plénitude de Dieu. Son salut est plein et parfait. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur Jésus. Et même, comme le titre d'un livre bien connu l'avait dit, Jésus plus rien égale tout. Mais si c'est Jésus plus quelque chose, on n'arrive à rien. Si on rajoute à Jésus, on est en train de détrôner Christ du trône de suprême qu'il doit être. Et on rajoute quelque chose comme égal à lui, alors qu'il n'y a aucun égal à Jésus-Christ sur cette terre qu'on peut faire. Alors, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Et ce texte, c'est un des textes qui nous parle de... où on voit que la divinité est en Jésus-Christ, que Jésus est venu être Dieu, que Jésus est Dieu. Mais une expression un peu compliquée ici, qui continue au verset 15. Ça commence en disant « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Donc là, il y aurait deux façons de comprendre ça. Jésus, le premier-né de toute la création. Le premier-né, ça réfère naturellement à l'idée de quelqu'un qui est né en premier. C'est l'aîné de la famille. Donc, si Jésus était le premier-né de toute la création, est-ce que ça voudrait dire que Jésus serait créé, qu'il aurait été créé par Dieu? Mais si Jésus avait été créé par Dieu, il ne pourrait pas être Dieu. Dieu ne peut pas créer son égal. Il n'y a qu'un seul Dieu. La meilleure façon de comprendre ce texte, de cette expression-là, premier-né, c'est dans le sens que ce que premier-né, ça voulait dire aussi pour ces sociétés-là. Le premier-né, c'était le plus important. Le premier-né héritait le double de la part de ses frères. Le premier-né, ça peut référer à une personne de rang prééminent. C'est-à-dire, et les chrétiens, au travers des âges, se sont entendus pour dire que ça ne pouvait pas être le cas que Jésus soit une créature, que Jésus soit créé par Dieu. On va en parler un petit peu plus tard. Parce qu'alors, comment pourrait-il nous racheter de nos péchés? Ça, c'est la plus grande question. Comment un ange pourrait-il mourir à notre place? Et comment est-ce que son sacrifice pourrait être suffisant? Alors, je vous donne juste quelques expressions dans le restant de la Bible où on voit que premier-né signifie le plus important. Et ça ne signifie pas l'aîné ou le premier créé. Là. Jérémie 31, 9 Dieu parle à Israël. Il dit, « En effet, je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. » Alors, si vous connaissez un peu la généalogie des fils de Jacob, les fils d'Israël, l'aîné, c'est Ruben. C'est pas Éphraïm. Et même Éphraïm, c'est un des fils de Joseph. Il ne fait pas partie des 12 fils de Jacob. Joseph a eu deux fils, Éphraïm et Manassé, mais c'était Manassé l'aîné. Cependant, lorsqu'est venu le temps de donner la bénédiction, Jacob a choisi que ce soit le plus jeune qui ait la plus grande part, qui soit celui qui serait le qui dominerait sur son frère, qui serait le plus important. Alors, cette expression-là, où Dieu dit « Éphraïm est mon premier-né », il n'était vraiment pas le premier-né, mais ça voulait dire qu'il était le plus important. Le psaume 89, 28, Dieu parle à... C'est une expression que, comme Dieu, il parle à David ou il parle au roi d'Israël, et dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Donc, c'était pas le Messie, David ne serait pas le premier roi de la terre, mais il serait le plus important, comme ça dit, le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Alors ça, c'est la bonne façon de comprendre ce texte-là, premier-né de toute la création, comme le plus important sur toute la création. Celui qui a été créé comme chef, pas celui qui a été créé, celui qui a été placé comme chef de la création, entre autres parce qu'il est créateur de, pas toutes les autres choses, mais de toutes choses. Au verset 16, en parlant de Jésus, il dit, « En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. » Et là, il est question des forces spirituelles, des bonnes et mauvaises, qui siègent sur des trônes et qui exercent les trois mots suivants, là, souveraineté, domination, autorité. Et ensuite, Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Ça ne dit pas toutes autres choses ont été créées par lui, mais tout a été créé par lui. Moi, lorsque j'ai fait un peu cette découverte-là, que Jésus était créateur aussi, j'ai trouvé ça un peu difficile, mais semble à l'école du dimanche, on voyait que c'est Dieu qui avait créé, puis Jésus, c'est celui qui était venu pour nous sauver. Oui, c'est le Fils de Dieu, mais je pensais que c'était Dieu le Père qui avait tout créé. Mais en fait, on voit à travers comme des textes comme celui-ci que les trois personnes de la Trinité étaient impliquées dans l'acte de création. Les trois personnes de la Trinité ont été impliquées dans l'acte de rédemption. Création et rédemption. Donc, Christ est celui que Dieu a placé comme suprême, mais les trois personnes unies et distinctes de la Trinité ont agi dans la création et dans la rédemption. Il y a un autre texte que vous connaissez probablement qui nous parle de Jésus comme créateur et qui nous parle clairement de sa divinité aussi au début de l'Évangile selon Jean. Où Jean dit ceci, « Au commencement, la parole... Au commencement était la parole. » La seconde 21 le traduit, « Au commencement, la parole existait déjà. » La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, on a la parole qui est avec Dieu, qui est Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu, mais c'est avec Dieu aussi. Donc, il y a une unité, mais il y a une distinction aussi. Et ensuite, le verset 3, qui parle de Christ comme créateur. « Tout a été fait par elle, la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et au verset 14, il est question, qui est la parole? Ça dit, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors Jésus était l'agent, ça dit que Dieu a parlé, il a créé par la parole. Dieu a parlé et les choses sont arrivées. Alors, j'ai de la misère à comprendre. Peut-être que d'ici quelques années, je vais être devenu un meilleur théologien puis je vais être mieux capable de vous expliquer ces choses-là. Mais Jésus est la parole de Dieu, clairement selon Jean 1. Et Jésus était présent au niveau de la création aussi. Un autre texte qui nous parle de ça, c'est Hébreux 1. Un autre splendide texte qui parle de la divinité de Jésus et son rôle dans la création. Tournez avec moi dans Hébreux. Gardez un doigt dans Colossiens, puis tournez dans Hébreux. On va lire juste les premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, c'est un des derniers livres du Nouveau Testament. C'est avant, il y a l'Apocalypse, puis si on recule, il y a les Épîtres de Jean, les Épîtres de Pierre, Jacques et Hébreux. Donc Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé les mondes ou l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Au verset 10, je vais vous aider, là, j'ai évité de tout lire. Cette section-ci parle comment Jésus est supérieur aux anges, comment Jésus est dans une autre catégorie, il a été appelé fils. Dieu dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « À quel ange est-ce que Dieu a dit, tu es mon fils? » Verset 7, « De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il dit au fils, et là il cite le psaume 45, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Wow, donc Dieu parle au Fils et dit ton trône, ô Dieu. Dieu parle à Jésus et l'appelle ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Au verset 10, et c'est toi, Seigneur, encore une fois, c'est Dieu le Père qui parle au Fils en disant, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre. Et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés, mais toi, tu es toujours le même. Et ton existence n'aura pas de fin. Alors, c'est probablement les trois textes les plus clairs dans le Nouveau Testament qui nous parlent de Jésus comme créateur, comme suprême créateur, celui sans qui rien n'a été créé. Et au verset 16, la dernière petite phrase est assez impressionnante. Je retourne dans Colossiens. Excusez, on retourne dans Colossiens. Dans Colossiens 1, vous avez gardé votre doigt. Colossiens 1, verset 16, à la fin du verset 16, Paul dit, « Tout a été créé par lui, le Fils, et pour lui. » Ça, c'est nous aussi, ça. Ça, c'est toute chose qu'on regarde dehors, qu'on regarde au niveau microscopique, nos cellules, on regarde les galaxies. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Pour quelle raison on existe? On existe pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Dieu. Un peu plus loin dans son épître, Paul va dire dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Il s'adresse à des esclaves, là. « Obéissez pas juste à vos maîtres comme des hommes, mais faites-le pour le Seigneur. » Et tout ce que vous faites, faites tout pour le Seigneur. Et ça vient nous chercher. Moi, lorsque, comme Paul disait ailleurs, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que je fasse à manger, que je fasse de la vaisselle, que je conduise mon auto, que je fasse mon travail, que je sois fidèle de tout faire pour la gloire de Dieu. Christ est appelé à être suprême dans toutes les facettes de ma vie, comme il est suprême dans toutes les facettes du monde entier. Au verset 17, une autre chose qui est intéressante à propos de Jésus comme créateur, c'est le fait que tout subsiste en lui. Wayne Grudem, le théologien, dit à propos de cette idée-là que Christ soutient, que Dieu soutient toute chose. Il dit « Si Christ cessait son activité continuelle de soutenir toute chose dans l'univers, alors tout sauf le Dieu trinitaire, cesserait instantanément d'exister. Nous devons notre existence même aujourd'hui au fait que Dieu soutient l'univers. Les déistes croient que Dieu a créé l'univers, a fait les lois de la physique, les lois de... puis il a tout, tout parti, il a comme programmé tout son programme à l'ordi, puis il fait « enter », puis là, ça roule tout seul. Mais ce n'est pas une vision biblique de la chose. Comme on le voit dans ce verset-ci, Dieu soutient toute chose. D'autres versets qui nous parlent de ça aussi. Actes 17, 28. Paul, lorsqu'il prêchait à Athènes sur l'Areopage, dit « En effet, c'est en lui, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et c'est pas juste quelque chose d'avant, mais c'est quelque chose de maintenant. Hébreux 1, 3, qu'on a lu tantôt, dit que « Il, le Fils, soutient tout par sa parole puissante. » 2 Pierre 3, 7 nous parle, en fonction du jugement, qui dit « Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu réservé pour le jour du jugement. » Donc, le ciel et la terre actuels sont gardés par la parole de Dieu. Il y a une œuvre de Christ comme créateur qui soutient l'univers, sans quoi tout disparaîtrait. Alors, notre vie aujourd'hui n'est pas due simplement au fait que Dieu, il y a X nombre de milliers d'années, ou peu importe, a créé l'univers et a mis en mouvement les lois de la physique et de la chimie pour qu'on arrive aujourd'hui, mais Dieu a une part importante encore pour soutenir chaque chose. Et nous devons notre vie, notre souffle de vie encore à chaque jour, au fait que Dieu décide de nous garder en vie. Alors, ces vérités sur Jésus-Christ comme suprême créateur et Dieu, je voudrais continuer un petit peu à faire une petite parenthèse de doctrine ici. Donc, ces vérités se mettent en opposition, en contradiction avec deux fausses conceptions de Jésus. Donc, la première fausse conception que je vais aborder, c'est l'idée, un enseignement qui vient originalement d'Arius dans les années 300 après Jésus-Christ, donc pas longtemps après Jésus. L'idée selon laquelle Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est une créature puissante de Dieu. Puis la deuxième fausse conception de Jésus, c'est l'idée probablement contemporaine que peut-être vous êtes ici puis vous vous demandez ça aussi. Est-ce que Jésus peut vraiment être Dieu? Est-ce qu'il n'était pas simplement un homme éclairé, un homme sage, un homme qui avait beaucoup de bon sens puis beaucoup de sagesse à qui Dieu avait révélé quelque chose de spécial? Alors, tout d'abord, la pensée arienne. La doctrine de la Trinité est partagée par les trois grandes branches du christianisme. Les protestants, les catholiques, les orthodoxes, on s'entend sur cette doctrine biblique qui enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il existe en trois personnes unies et distinctes et que chaque personne est pleinement divine, possédant tous les attributs de la Trinité. Et ça, c'est un endroit principal où le christianisme large diffère avec l'enseignement des témoins de Jéhovah, par exemple. Donc, les témoins de Jéhovah tirent leur doctrine de Jésus-Christ de Arius. Peut-être qu'ils n'en sont pas conscients, mais c'est la même pensée. Arius, qui était évêque d'Alexandrie, qui enseignait que Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, ont été créés à un certain moment, avant la création du monde, et donc qu'ils n'ont pas éternellement existé, mais seulement le Père. Et c'est une idée que les témoins de Jéhovah ont reprise, c'est quelque chose qui fait partie de leur enseignement. Les théologiens souvent disent qu'il n'y a pas de nouvelles erreurs ou de nouvelles hérésies, il y a juste des anciennes qui sont déguisées différemment. D'où l'avantage de s'éduquer en histoire de l'Église. Ovidiu, une petite plug pour Ovidiu. Ça vaut la peine de s'éduquer en histoire de l'Église. Alors, on apprend quels ont été les enseignements divers et les nouvelles choses peut-être auxquelles on peut être confronté. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais entendu la Bible être interprétée comme ça. Ah non, non, ça fait longtemps, ça fait 1800 ans que les chrétiens ont écrit des choses pour répondre à ça. Mais l'enseignement d'Arius s'appuyait sur des textes qui parlent de Jésus comme le Fils unique de Dieu, Puis le terme grec utilise un peu le Fils unique et engendré de Dieu. En anglais, il y a l'idée « the only begotten Son of God », comme dans Jean 3,16 par exemple. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, His only begotten Son », si vous le connaissez en anglais. En français, ce qui est traduit par « unique », ça donne l'idée de « unique et engendré », un peu les deux. Mais de quelle façon est-ce que Jésus est engendré? Puis ce mot-là, il n'est pas clairement traduit en français. L'Église primitive, elle sentait la force de tellement d'autres textes, dans le fond, qui montaient que Christ était pleinement et complètement Dieu, qu'ils ont conclu que peu importe ce que « unique engendré » voulait dire, ça ne pouvait pas vouloir dire que Jésus avait été créé. Ainsi, le credo de Nicée, sur lequel les églises de l'époque se sont entendues en 325 après Jésus-Christ et que toutes les branches de christianisme affirment comme légitimes, ce credo-là affirme que Christ a été engendré et non créé, et ça de façon éternelle, que Jésus est le Fils éternellement engendré de Dieu. Qu'est-ce que « engendré » veut dire? Je ne suis pas certain, mais il ne peut pas avoir été créé. Il y a tellement d'autres textes qui sont clairs. Lorsque Thomas, par exemple, se prosterne devant Jésus et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », et Jésus ne le reprend pas. Et si Jésus était un ange, si Jésus était une force spirituelle, d'avoir qui que ce soit qui se prosterne et appelle un ange Dieu, on voit les anges dans l'Ancien Testament qui disent « Non, je ne suis pas Dieu ». Alors, pourquoi Jésus aurait-il accepté de recevoir cette louange-là? Et Jean, qui écrit ça, l'évangéliste Jean, qui parle de cet événement-là, juste après la proclamation que Thomas fait, Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et tout de suite, Jean dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Alors, juste après que Thomas s'incline devant Dieu, devant Jésus, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu, j'arrive, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est pour que vous arriviez à ce point-ci, pour vous aussi vous prosterner devant Jésus et reconnaissant celui-ci, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Dieu. » Il y a plusieurs reprises. Bon, il y a les textes qu'on a lus tantôt dans Jean 1:1, dans Hébreux 1, où Dieu parle à Jésus comme étant « ô Dieu ». Tite 2:13 parle de Jésus comme notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de traduire cette expression-là. 2 Pierre 1:1 aussi « la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ ». Et si on revient à notre texte dans Colossiens 1, « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus. » Et si vous tournez votre page dans Colossiens 2:9, c'est probablement encore plus clair. Il dit « En effet, c'est en lui, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Wow! C'est dur d'être plus fort que ça. C'est en Jésus qu'habite physiquement, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Alors, à juste titre, c'est à juste titre que Matthieu, au début de son évangile, rapporte la prophétie d'Ésaïe au sujet de Jésus et qui serait appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Pourquoi est-ce que c'est tellement important que Jésus n'ait pas été créé? Qu'est-ce que ça change? On peut se dire, c'est peut-être une histoire pour le monde qui veut débattre de principes théologiques, mais qu'est-ce que ça change? Si Jésus était vraiment un être puissant, un genre de grand ange fort qui serait mort à notre place sur la croix, quand lui, on a le pardon des péchés. Mais Athanase, qui a vécu à l'époque d'Arius, un petit peu après, lui a passé sa vie, et vous pouvez retrouver les écrits d'Athanase. D'ailleurs, il a passé sa vie, il a vécu en exil parce que l'influence d'Arius a duré, était très forte pendant les années 300 jusqu'à ce que finalement, vers la fin des années 300, l'Église dans le monde romain en général dise « Ok, non, c'est bon, on se met d'accord, Jésus est éternellement Dieu. » Mais qu'est-ce que ça change? Une des choses que Athanase disait et qui est les plus importantes, c'est que si Jésus n'est pas Dieu éternel, est-ce que sa mort sur la croix est suffisante pour nous? Est-ce qu'il peut vraiment faire le pont entre nous et Dieu? Est-ce que, comme ange ou comme force spirituelle non divine, il ne pourrait pas, il est fini. Dieu est infini, nous sommes finis, les anges sont finis, une quantité limitée. Alors, est-ce que la mort de Jésus pourrait couvrir un nombre innombrable de gens qui se confieraient en lui, techniquement infini, si tous se repentaient pour croire en Christ? Est-ce qu'on pourrait vraiment être unis avec Dieu, devenir un avec Dieu, qu'il vienne habiter en nous si c'était un ange puissant qui était mort à notre place? Et d'ailleurs, la justification par la foi est menacée. Et nos amis témoins de Jéhovah, c'est une des difficultés qu'ils ont. Ils n'ont pas d'assurance de leur salut. Et c'est comme toutes les autres religions, c'est un salut par les œuvres. Je dois être obéissant, je dois plaire à Dieu, je dois croire la bonne chose. Et si Jésus n'est pas Dieu éternel, alors notre salut est perdu. Il n'y a plus d'assurance. On ne peut plus se confier uniquement en Jésus. Il n'est plus suprême rédempteur. Et si Christ est créé, néanmoins celui qui nous sauve, on attribue notre salut à une créature, ce qui exalte la créature au lieu du créateur, ce qui va à l'encontre de tout ce que la Bible nous dit. Partout, la Bible nous dit que le salut vient de l'Éternel. Une autre chose intéressante, c'est le fait que s'il n'y existait que le Père, seulement le Père, un Dieu unique de toute éternité, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de relation au sein même de la Trinité, comme la doctrine de la Trinité nous l'enseigne. Alors, ça voudrait dire qu'avant que Dieu crée Jésus, ou le Saint-Esprit, ou les êtres humains, Dieu n'était pas vraiment un Dieu personnel. Dieu n'était pas vraiment un Dieu d'amour. Parce qui peut dire « j'aime » mais n'a personne à aimer? Comment est-ce qu'on pourrait dire, comment Jean pourrait dire qu'une des caractéristiques fondamentales de Dieu, qui dit « Dieu est amour ». Non pas seulement Dieu est aimant, mais Dieu est amour. Si Dieu était seul, comment pouvait-il être amour? C'est une des grandes forces de la doctrine de la Trinité qui résout ce problème-là. Et qui, en plus, ça tombe bien, c'est la meilleure façon d'expliquer le texte biblique. Alors, c'est fini pour la parenthèse sur l'arianisme. Et vous pouvez faire plus de recherches sur Athanase si vous voulez lire ce que lui a écrit dans les années 300. Je n'ai pas vérifié, mais sûrement que vous pouvez trouver ses écrits traduits en français sur Internet. Et où il cite, là... On peut penser qu'aujourd'hui... C'est assez fou lorsqu'on fait... on étudie l'histoire de l'Église, parce qu'on peut penser... Nous, on pense qu'avec la technologie, on voit la technologie qui s'améliore de génération en génération et même d'année en année. L'Internet est de plus en plus puissant. Nos téléphones cellulaires sont de plus en plus puissants. On croit qu'avec le temps, on gagne en intelligence comme humanité. Mais lorsqu'on va lire les écrits anciens, on se rend compte que on a peut-être rétrogradé un peu au niveau de la profondeur de la pensée, au niveau de la connaissance biblique aussi. Si vous lisez des gens comme Athanase, comme les pères de l'Église, vous vous rendez compte que et les pasteurs, on se rend compte que, c'est pas pour rien qu'eux, c'était des grands et pas moi. Alors, si ça vous tente de lire Athanase cette semaine, A-T-H-A-N-A-S-E, qui a vécu une vie très difficile, mais à soutenir toute sa vie jusqu'à sa mort, que si Jésus n'est pas pleinement Dieu, alors notre salut est caduc. Notre salut est fini. Alors, la deuxième fausse conception de Jésus, surtout lorsqu'on voit ce texte-là, c'est un peu l'idée qu'on aurait, que la majorité de nos amis auraient probablement, que Jésus était une bonne personne, quelqu'un qui était très sage, qui était illuminé, peut-être un prophète de Dieu, qui aurait une connexion avec le divin. Mais cependant, si vous lisez les évangiles ou si vous invitez vos amis à lire les évangiles et qu'on le compare aux autres livres sacrés ou les livres de sagesse des autres philosophies ou des autres religions, on voit que contrairement aux fondateurs de toutes les autres religions ou modèles de pensée, Jésus ne se présente pas seulement comme sage, contrairement à Bouddha, par exemple. Il ne se présente pas simplement comme prophète, comme dans l'islam, comme dans la foi bahaï. Il ne se présente pas simplement comme une incarnation divine, comme on pourrait le voir dans l'hindouisme. Il ne se présente pas simplement comme un bon enseignant, ou comme, c'est ça, comme un sage, comme la majorité de nos amis pourraient penser. Dans les évangiles, Jésus se présente comme Dieu dans la chair, comme seul rédempteur, et comme lui-même le seul chemin vers Dieu. Douglas Grewtice, théologien et apologète, dit que, il résumait un peu un chapitre où il parlait de ça, il dit que Jésus est entré dans le monde, et ça c'est ce que les évangiles nous montrent, Jésus est entré dans le monde de façon surnaturelle, a démontré sa crédibilité par des signes et des prodiges sans parallèle, a possédé un caractère impeccable, a fait des affirmations qui ne sont valables que pour Dieu lui-même, et il est mort dans le but de racheter l'humanité. La meilleure explication de ces faits historiques est qu'il était celui qu'il a affirmé être. Et si c'est le cas, nous devrions lui répondre dans ces termes. Ce que les évangiles nous montrent, c'est que Jésus ne peut pas prétendre, on ne peut pas regarder honnêtement les faits et croire que Jésus prétendait être simplement un bon enseignant. Jésus a affirmé être beaucoup plus. Jésus parlait de lui dans des termes divins. Jésus a fait des choses, a fait des miracles, il enseignait, il a dit des choses, qu'il était le seul chemin vers Dieu, qu'il était la vérité. Il ne dit pas « je vous montre la vérité » comme les autres, mais la vérité ne se trouve pas dans mon enseignement, mais dans ma personne. Il n'y a personne d'autre que lui qui a dit ça et qui l'a backé par ses miracles et, en ressuscitant d'entre les morts. Alors, Jésus est vraiment Dieu suprême, suprême créateur. Puis on va regarder rapidement pour la fin. Christ, suprême rédempteur. Au verset 18, nous dit que Jésus, il est à la tête du corps qu'est l'Église. Il dit la tête du corps de l'Église dans la Louis II, comme ça que la façon la plus littérale de transcrire le grec, ce que probablement Paul est en train de dire ici, c'est le corps dont il s'agit, c'est le corps qu'est l'Église. La seconde 21 le traduit comme ça d'ailleurs. Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, c'est peut-être juste cette expression-là, le cœur de ce passage-là. Afin d'être en tout le premier. Le premier-né sur toute la création, le premier-né d'entre les morts. Là, le premier qui est ressuscité de la nouvelle création, le plus important. Verset 19, qu'on a lu tantôt. « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. » Au verset 20, on voit Jésus rédempteur. « Il a voulu, Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Il n'y en a nul autre qui a versé son sang pour nous, nul autre qui pourrait prétendre être un rédempteur parfait comme Jésus l'a été. Nul autre dont le sacrifice pouvait être parfait, qu'on n'avait plus besoin de répéter des sacrifices d'animaux qui, de toute façon, ne pouvaient pas vraiment couvrir les péchés, mais qui étaient là en attendant le sacrifice qui allait vraiment pouvoir les couvrir. Celui de Dieu le Fils lui-même qui s'offre à son Père, qui offre son corps, qui subit la colère de Dieu à la croix. Et au verset 21, Paul, il parle aux Colossiens, mais il nous parle à nous aussi. « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort, il s'agit de la mort de Jésus, dans son corps de chair. Dans quel but? » Et là, on arrive à qu'est-ce que ça change pour moi, que Christ soit suprême créateur et rédempteur. Dans quel but est-ce que Dieu s'est offert pour nous à la croix? La deuxième moitié du verset 22. « Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. » Jésus nous a réconciliés avec son Père en mourant à notre place pour nous présenter comme une offrande sainte, sans défaut, sans reproche. Une œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Une œuvre qui nous demande de coopérer avec lui pour accomplir. Au chapitre 3, particulièrement, Paul va nous montrer à quoi ça ressemble dans ma vie, ça. De tendre vers ça, d'être ce que Jésus est en train de me transformer par son esprit, d'être saint, sans défaut et sans reproche. Mais Paul y met une condition au verset 23. « Si seulement vous restez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. » Alors, Christ nous a sauvés pour que nous soyons saints, mais une condition pour notre glorification arriver à ça, c'est que nous tenions ferme dans la foi. Un débat un peu qui a lieu entre différentes dénominations, différentes pensées au niveau des protestants, au niveau des évangéliques, c'est la question de la perte du salut. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Est-ce qu'on peut être vraiment sauvé et perdre notre salut? Ou est-ce qu'une fois qu'on est sauvé, c'est sûr que peu importe ce qu'on fait, on est sauvé? Mais ce que la Bible enseigne, c'est un peu les deux ensemble. Elle enseigne que tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau vont être gardés par la puissance de Dieu et vont persévérer comme chrétiens jusqu'à la fin de leur vie. Si Dieu nous a sauvés, il va nous faire persévérer, il va nous garder. Rien ne nous arrachera de la main de Jésus, comme il dit à propos de ses brebis dans Jean 10, 27, 28. « Mes brebis, écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Mais la doctrine de la persévérance des saints nous enseigne aussi que c'est seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui sont vraiment nés de nouveau. Alors, si on abandonne la foi, si on se détourne de l'Évangile qu'on a reçu, alors il y a question de se poser, pour nous, pour vous, si ça vous arrive, ou si vous pensez, si vous y pensez, ou pour nos bien-aimés qui se sont éloignés, qui se sont écartés, mais peut-être c'est possible qu'ils n'ont jamais été sauvés. En tout cas, il n'y a rien à ce point-ci, selon leur conduite, qui peut nous amener à... qui peut démontrer qu'ils sont sauvés. En ce moment, ils démontrent qu'ils sont perdus. Ils ont besoin de faire ce qu'on a tous besoin de faire, se repentir de nos péchés et se confier en Jésus, seul, pour notre salut. Alors, peu importe qu'on ait fait profession de foi une fois, deux fois, huit fois, 25 fois, qu'on se détourne, si jamais on se détourne pour aller loin de Dieu, pour le rejeter, pour faire notre vie, j'en veux pas de toi comme mon Rédempteur, j'en veux pas de toi comme mon Seigneur, je vais faire ma vie à ma façon. Ben, c'est difficile pour nous et on ne devrait pas dire « Ah, mais c'est correct, si tu as fait ta prière de repentance quand tu étais plus jeune ou la semaine passée, alors ça ne dérange pas. Peu importe à quel point tu blasphèmes contre Dieu, peu importe à quel point que tu dis que tu n'y croyais pas, tu vas être sauvé pareil. » Non, je pense qu'on est en train d'induire les gens en erreur si on fait ça. Alors, il y a cette assurance-là qu'on peut avoir. Quelques questions que j'aimerais vous poser. Des preuves, dans le fond, que nous sommes sauvés. Est-ce que je place présentement ma confiance en Jésus-Christ seul pour mon salut? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des évidences de l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit dans mon cœur? Pas est-ce que je suis rendu à la stature parfaite de Christ encore, mais est-ce que je vois l'œuvre de l'Esprit qui travaille en mon cœur? Qui m'amène à la repentance et pas juste à me détester moi-même ou parce que mon estime de moi est affaiblie lorsque j'ai péché, mais que je suis attristé, je sais que j'ai attristé mon Père et je veux l'aimer, je veux l'honorer. Troisième question, est-ce que je vois une croissance à long terme dans ma marche chrétienne? Si oui, il y a là une belle assurance pour toi. Tu peux dire avec joie, « Merci Seigneur, je suis né de nouveau » et Jésus va me préserver. Amen. Parce que si mon salut éternel, ma préservation dépendait de moi, je serais en de mauvaises mains. Et vous aussi, vous seriez en de mauvaises mains si vous étiez les garants de votre persévérance. Merci Seigneur que ceux qui sont ses élus, ceux qu'il a sauvés, il va faire persévérer jusqu'à la fin. Mais si tu penses abandonner, ou si tu as déjà abandonné la foi ou reculé, ou si tu vis clairement une double vie, il y a des bonnes chances que tu sois toujours sous le jugement de Dieu. Le conseil pour toi, pour nos bien-aimés qui sont dans ces situations-là, c'est le même que pour tous les pécheurs. Repentons-nous et confions-nous en Jésus pour le pardon de nos péchés. Alors, j'aimerais terminer en conclusion. On a vu que Jésus est le suprême créateur. Créateur de toutes choses. Il a créé tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, toutes les forces spirituelles. Pour Jésus, comme maître suprême, il n'y a pas de différence entre le physique et le spirituel. Il est maître sur tout. Pourtant, c'est si facile pour nous de mettre notre vie spirituelle dans une case dans notre vie, puis vivre le restant de notre vie avec à peu près aucune relation avec le spirituel. Ma relation avec Dieu, c'est quand je vais à l'église le dimanche, quand je vais chanter, quand je vais écouter la prédication de Benoît qui dure un peu trop longtemps, ou d'autres, lorsque je vais prier avec les frères et sœurs. OK, ça, c'est le dimanche matin, ça, c'est ma vie spirituelle. Les quelques temps, si ça donne que je lis ma Bible, si que je prie dans la semaine, ça, c'est ma vie spirituelle. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas être Seigneur simplement de notre vie spirituelle, si c'est comme ça qu'on la conçoit, mais Seigneur de toutes choses. Il veut être dans nos cœurs comme il est sur la création, le premier en toutes choses. Ça nous amène à réfléchir. Quelles sont les autres facettes de ma vie qui n'ont pas ou peu de lien avec la suprématie de Jésus? Est-ce que mon éthique de travail, je la place sous la Seigneurie de Jésus? Mes relations avec mes collègues ou mes amis, mes sujets d'intérêt ou de discussion, mes rêves, mes buts dans la vie, est-ce que ça a rapport avec Jésus ou ça a rapport juste avec moi et autre chose? Mes divertissements, la musique que j'écoute, la télé ou l'Internet que je consomme, ma sexualité, mes relations amoureuses ou conjugales, mes relations avec ma famille, mes dépenses ou mes décisions financières. Est-ce que Jésus est Seigneur seulement le dimanche matin dans ma vie spirituelle ou est-ce que Jésus est Seigneur sur tout? Christ est le meilleur Seigneur. Il va être un bien meilleur Seigneur sur toutes les facettes de vos vies que vous pourriez l'être pour vous-même. Oui, il nous appelle à mourir à nous-mêmes pour le suivre, mais il y a beaucoup plus de bénédictions à le suivre, lui. Qui ne sont pas ceux qui ont été prêts à mourir à eux-mêmes pour suivre Jésus et qui dit « ceux qui délaissent, peu importe ce qu'on délaisse, on va gagner au centuple dans cette vie-ci et dans la vie à venir. » Il y a une grande joie pour ceux qui sont prêts à délaisser la seigneurie de leur vie pour la confier à Jésus sur toutes les facettes de nos vies. Alors que Jésus se révèle de plus en plus clairement à nous tous, cette semaine et à jamais, comme le suprême Créateur et Rédempteur qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse.